Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Comment exercer le métier de journaliste dans des pays en crise? Peut-on encore y produire de l'information fiable et non partisane? Quel rôle y tiennent les médias, citoyens, militants ou simplement rôle d'observateur? 12 journalistes de Libye, d'Irak et du Yémen ont accepté d'en débattre à Paris, à l'initiative de l'Agence française de coopération médias, CFI. Des brigades combattantes yazidis ont été constituées par le PKK en Irak. Elles seraient engagées dans les combats qui ont démarré jeudi contre Daesh à Sinjar. C'est l'une des informations du reportage de 26 minutes diffusé ce soir sur France 24, consacré à la guérilla kurde. Et c'est un nouveau rendez-vous mensuel que propose la chaîne d'information continue Reporter, le doc en français, en anglais et en arabe. À suivre également la revue de presse Regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Plus que jamais, l'information est un élément crucial pendant les périodes de crise, écrit le directeur général de CFI, l'Agence française de coopération média. Étienne Fiat ajoute qu'informer est devenu un enjeu majeur, qu'il est de plus en plus difficile, voire impossible à tenir sur les terrains en crise. C'est pourquoi son initiative de proposer à des journalistes de Libye, du Yémen et d'Irak de venir à Paris débattre de leurs pratiques journalistiques est importante. Afaf Chebli, responsable de projet Méditerranée-Asie à CFI, nous en dit plus sur ce programme.
Alors ce programme consiste en fait à ne pas se laisser paralyser par l'instabilité politique ambiante dans ces trois pays, ne pas rompre le lien avec nos amis journalistes d'Irak, de Libye et de Yémen. Et l'idée était de les rassembler à Paris, ensemble, pour qu'il y ait un véritable écho des solidarités, qu'on puisse réfléchir et aborder ces crises et l'enjeu médiatique à travers l'identité journalistique, tous ensemble, avec des chercheurs, des diplomates et des journalistes internationaux.
Alors vous avez trouvé des journalistes dans ces trois pays, cela veut dire donc qu'il y a une vie informative extrêmement présente.
Alors bien sûr, il y a une vie informative extrêmement présente, sauf que, comme on le sait, lors des conflits, les journalistes sont les premières victimes. La majorité d'entre eux viennent de leur pays, mais quelques-uns sont quand même exilés au Caire, d'autres à Rome, d'autres en Turquie, depuis quelques mois. Malgré cela, ils continuent à vraiment faire tout leur possible pour contribuer aux médias de leur pays et aussi en apportant du contenu de très grande valeur aux médias internationaux.
Est-ce qu'on peut faire du journalisme de terrain aujourd'hui dans ces pays où l'insécurité règne ?
Alors justement, ça va être le sujet de la table ronde qui suit cette conférence inaugurale. La question est aussi de se dire, est-ce que on peut être journaliste ou que journaliste? Quel est notre rôle aussi en tant que militant, en tant que citoyen? Est-ce que c'est contradictoire avec la fonction de journaliste? Justement, c'est toutes ces questions que pose un contexte de crise.
Parce que certains des invités qui sont donc journalistes ont aussi ou occupent parfois des fonctions plus officielles.
Tout à fait. Que ce soit en tant que directeur du bureau de presse d'un ministre ou que ce soit dans des grandes entreprises, le cumul des fonctions est nécessaire, disons, pour répondre à leurs besoins vitaux, leurs besoins premiers, pour leur famille, pour leur assurer un minimum de sécurité. Mais leur volonté, leur vocation de journaliste qui vibre en eux fait qu'ils sont ici parmi nous aujourd'hui et qu'ils se sont engagés sur les 4 séminaires à vraiment participer, contribuer à cette réflexion commune, étant donné qu'en Europe, mis à part les Balkans, nul n'a connu de situation pareille où il y avait des divergences ethniques, politiques, religieuses qui vraiment divisent tout le monde.
Alors ce programme, est-ce que c'est un programme où les journalistes et chercheurs français qui travaillent sur la région Moyen-Orient vont apporter des réponses aux journalistes qui viennent, ou alors est-ce que c'est plutôt dans le mode de l'échange, voire a-t-on, nous, des choses à apprendre de ces journalistes de terrain?
Alors totalement. En fait, l'idée, c'était dès le départ, j'avais imposé, c'était ma condition pour travailler sur ce projet, le cadre éthique, était que nous n'étions pas dans une relation verticale, mais dans une relation vraiment horizontale. Nous avions une problématique aujourd'hui que nous devions aborder à travers notre identité de journaliste, peu importe que l'on soit yéménite, irakien, libyen, français, palestinien ou autre. Nous sommes tous là ensemble à réfléchir sur l'amélioration des conditions de travail du journaliste en contexte de crise, sachant qu'il n'y a aucun cadre réglementaire à ces moments-là, sachant qu'il n'y a aucune garantie, et aussi, surtout, pour nos journalistes à nous, justement, français, d'avoir, au-delà d'une approche professionnelle nouvelle, aussi une meilleure appréciation de la situation elle-même pour pouvoir transmettre la vérité, en tout cas, ou du moins s'en approcher à l'opinion française.
Parmi les membres de l'équipe pédagogique qui anime les débats, Claire Talon, journaliste indépendante, qui a couvert l'actualité en Égypte après le printemps 2011. Ce qui l'a séduit dans le projet, c'est la possibilité offerte de pouvoir réfléchir loin des zones des conflits à la manière de mieux faire son travail.
Ce qui me semble remarquable dans le monde arabe aujourd'hui, dans ce qui se passe, c'est précisément qu'on est dans une situation dans laquelle les difficultés auxquelles font face les professionnels de l'information, les journalistes en particulier, mais aussi tous les autres gens qui gravitent, tous les électrons libres qui gravitent aujourd'hui autour de ces sources d'information et qui deviennent des sources d'information plus ou moins malgré eux parfois, c'est qu'on atteint un niveau inédit dans la somme de difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes. C'est extrêmement difficile, pas seulement pour des raisons de sécurité physique, mais on est aussi face à un paysage ultra polarisé au sein duquel la question de l'indépendance et la possibilité de fonder, d'entretenir et de faire vivre un média indépendant est plus difficile que jamais dans la plupart des pays de cette région. Et en même temps, paradoxalement, on est face en fait à une abondance à la fois de médias, d'initiatives et surtout de données et de documentation et d'informations sauvage qui atteint des niveaux extraordinaires. En sorte qu'on peut dire même qu'aujourd'hui, le monde arabe, en tout cas depuis 2011 et un petit peu avant, il y a eu d'immenses initiatives de production de savoir et de documentation et qu'aujourd'hui, on est face à ces sommes d'informations-là, ces sommes de documents qui sont, dans leur large mesure, inexploitées. Donc la question, c'est non seulement comment exploiter ces documents, mais aussi, tout simplement, quels outils inventer pour pouvoir les traiter. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Et donc, on est face à ce phénomène étrange où on est à la fois face à de très grandes difficultés dans la production de l'information et un débordement d'initiatives, un débordement de production avec des choses extraordinaires qui se créent. Moi, pour ne parler que sur l'Égypte, qui est un terrain que je connais peut-être mieux que les autres aujourd'hui, moi, j'ai pris des leçons de journalisme en Égypte grâce à des médias comme Madamas, par exemple, qui sont animés par des petits groupes de core activistes extrêmement brillants, extrêmement actifs et qui aujourd'hui ont un rôle politique de premier plan dans l'avenir de leur pays, dans ce qui s'y passe, qui sont directement menacés bien sûr, mais qui sont l'avenir de ce pays. On n'a pas aujourd'hui encore complètement pris la mesure, en Europe notamment, de la richesse des choses qui sont en présence dans cette région et on n'a surtout pas commencé à les exploiter et à les reconnaître à leur juste valeur.
Alors, foisonnement d'informations, est-ce que les populations sont preneuses de cette info ?
Il y a de grandes disparités dans l'accès à l'information en fonction des pays. Par exemple, l'Irak a un taux de pénétration d'Internet extrêmement réduit, le Yémen également. Donc, les sources de l'information, l'accès aux sources et aux sources indépendantes est très inégal en fonction de chaque pays. Et là, on est face à des situations diverses. Mais pour avoir pas mal parcouru la région ces dernières années, je dirais même depuis 2005 en fait, j'ai toujours été frappée par le degré de politisation des opinions et le degré d'information, c'est-à-dire que l'information reçue soit indépendante ou non. Je trouve que les gens dans le monde arabe sont extrêmement friands d'informations. D'ailleurs, souvent, j'étais étonnée de rencontrer des gens au fin fond du Yémen au moment des émeutes de Clichy-sous-Bois qui me parlaient des émeutes de Clichy-sous-Bois. Enfin, alors qu'à Clichy, il aurait été difficile de trouver des gens qui m'auraient parlé du Yémen. Et je crois qu'il y a depuis un certain moment une abondance de médias dont la qualité, bien sûr, est relative, mais il y a des choses excellentes. Mais il y a une énorme demande, parce que les paysages politiques, je pense, sont tellement clivés que il y a une conscience, je dirais, générale de l'importance de l'information et une soif d'information, d'où l'importance et l'intérêt de travailler sur le développement, justement, de sources indépendantes et de soutenir des initiatives comme ça.
Ce programme est soutenu par l'AFP, l'Agence France Presse, par le Centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères et aussi par l'IREMO, l'Institut de recherche sur le monde arabe.
Orient Hebdo sur RFI.
Que Dieu punisse la Turquie. Mon enfant pleure tout le temps. Que Dieu venge ma fille. Ils lui ont pris son père. Ils lui ont pris son avenir.
Zargali est aujourd'hui un village fantôme.
France 24 propose un nouveau rendez-vous d'enquête, reporter, le doc, un 26 minutes, diffusé une fois par mois, le samedi en fin de soirée. Et cela commence aujourd'hui avec un sujet consacré au PKK, la guérilla kurde. Matteo Dara, bonjour.
Bonjour.
Vous avez tourné vos images dans les monts Kandil, notamment au nord-ouest du Kurdistan irakien autonome. Cela vous a-t-il été facile? Comment avez-vous été accueilli?
Alors j'ai travaillé avec Lili Tezidi, qui est une journaliste franco-kurde, qui connaît très bien la région. Il a fallu un certain nombre de contacts préliminaires pour pouvoir être accepté, notamment dans la région du mont Kandil, qui est la base arrière, un refuge historique du PKK, et qui est notamment une sorte de quartier général du PKK. C'est là qu'on retrouve de nombreux chefs de l'organisation. Donc pour pouvoir entrer dans cette zone, il y a un certain nombre de protocoles de sécurité qui sont dictés par l'organisation, par la guérilla, qu'il faut respecter. Mais une fois que nous avions les autorisations, que les contacts étaient établis. Non, il n'a pas été très difficile de tourner. Nous étions bien sûr encadrés par le PKK. On a pu filmer ce qu'ils ont bien voulu nous montrer. Il faut savoir que le PKK a repris la guerre frontale contre l'État turc à la fin juillet. Ils sont donc également dans une guerre, bien sûr, de communication, et ils cherchent aussi à faire connaître leur position auprès de la presse internationale.
Et vous voyez notamment la numéro 2, une femme.
On voit la numéro 2 qui est la coprésidente du PKK après Abdullah Öcalan. Il faut savoir que à tous les niveaux de prise de décision au sein de cette organisation, il y aurait un homme et une femme qui dirigent de concert. Donc la numéro 2, c'est Beche Ozat, qu'on a interviewé, et le numéro 2, donc son homologue homme, c'est Cemil Bayık, lui on n'a pas vu, on a vu donc Beche Ozat.
Alors, jeudi matin, les Kurdes ont lancé une attaque contre Daesh pour tenter de reprendre le contrôle de la ville de Sinjar. C'est plus à l'ouest, du côté de la Syrie. Vous étiez justement à Sinjar, on le voit dans le documentaire, avec le PKK, à quelques centaines de mètres des positions djihadistes. Vous attendiez à cette attaque de jeudi?
Oui, cette attaque était dans l'air depuis un moment. En fait, il faut savoir qu'il y a des différends entre le PKK, donc la guérilla turque, et les Peshmerga, qui sont un peu l'armée régulière du Kurdistan autonome d'Irak. Il y a des différends politiques, notamment. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur des questions d'idéologie, de politique interne. Donc, tous ces différends ont fait qu'on retardait le début de l'opération. Mais on savait depuis un moment, que depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois, que à terme, il était nécessaire pour les Kurdes de reprendre la ville de Sinjar, puisqu'elle joue un rôle très important. C'est une ville qui fait la connexion entre les deux bastions de l'État islamique, qui sont Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak.
Alors, autre élément que l'on voit dans votre reportage, c'est l'encadrement, en quelque sorte, des yézidis, c'est les gens qui habitaient dans cette région particulière du Sinjar. Que font-ils actuellement? On les voit qui s'entraînent.
Oui, alors en fait, les yézidis, donc, ils étaient plus de 300 ou 400 000 en août 2014, quand la grande offensive de Daesh dans la région de Sinjar a commencé, et l'immense majorité des yézidis ont été obligés de fuir leur région. On sait que les yézidis ont souffert des massacres, que de nombreuses femmes et hommes et enfants ont été kidnappés par les djihadistes. Les yézidis ont longtemps accusé les Peshmerga d'avoir fui. Donc il y a un an, enfin 14 mois maintenant, au moment où les Peshmerga sont arrivés, et il rappelle que ce sont des unités du PKK qui sont venues, qui ont attaqué les djihadistes et qui ont permis d'évacuer les populations yézidis qui étaient prises au piège. Donc grâce à ça, la guérilla du PKK a gagné un véritable crédit auprès de la population locale, et maintenant, grâce à ces événements, le PKK est installé, il semble durablement, en tout cas c'est ce qu'on va voir, mais il semble durablement dans la région du Sinjar, et ils ont commencé à endoctriner les populations yézidis. Ils leur apprennent à se défendre, ils ont créé une milice yézidi, et ils ne leur apprennent pas que le maniement des armes. Ils leur apprennent bien sûr aussi l'idéologie inspirée du marxisme, en tout cas socialiste, d'Abdullah Öcalan, le fondateur du PKK. Ils leur apprennent également à lire la langue kurde, à retrouver la maîtrise de la langue kurde. Ils essaient de récupérer la culture traditionnelle du peuple yézidi. Donc le PKK vraiment a une emprise assez forte, politique, idéologique, militaire, sur les populations yézidis.
Donc le PKK recrute.
Le PKK bien sûr recrute.
Merci Matteo Dara. Reporter le doc, c'est à regarder ce samedi sur France 24 et à podcaster sur le site www.france24.com.
Merci.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors, le double attentat suicide de jeudi à Beyrouth, dans un quartier pro-Hezbollah, fait la une des journaux de la région, à commencer par la presse arabe, Alexandre.
Oui, tout à fait. Les attentats, rappelons-le, ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Ils visaient effectivement le Hezbollah en attaquant cette banlieue chiite du sud de Beyrouth. Alors, ils ont été revendiqués par le groupe État islamique et pour les journaux, c'est la poursuite de l'extension du conflit syrien au Liban. Le Hezbollah se bat en effet aux côtés de Bachar al-Assad contre la rébellion syrienne qui, elle, est dominée par les sunnites et des sunnites où l'État islamique constitue la faction la plus puissante. Le journal libanais Al-Safir accuse l'Arabie saoudite, mais aussi le Qatar, la Turquie, la France et les États-Unis d'être indirectement responsables des attentats du fait de leur soutien à la rébellion syrienne. Et puis le journal Al-Manar espère, lui, que ces attentats provoqueront une unité de toutes les factions libanaises face aux dangers extrémistes qui menacent l'existence même du Liban.
Michel Paul, la presse israélienne commente aussi largement ce double attentat meurtrier.
La revanche de Daesh, titre Mariv, le terrorisme est de retour à Beyrouth, l'attentat le plus meurtrier dans la capitale libanaise au cours de la dernière décennie. Yediot Aharonot parle lui d'un coup porté au Hezbollah. Le journal s'étend sur ce qu'il qualifie de bourbier syrien de Nasrallah. Cette opération terroriste porte bien la signature de l'État islamique, estime le journal. L'experte du monde arabe du quotidien estime que ce sont maintenant les Iraniens qui sont sur la liste et qui doivent être sur le qui-vive.
Michel, l'autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en Israël cette semaine, c'est l'affaire de l'étiquetage des produits issus des colonies de peuplement.
C'est effectivement le sujet qui retient le plus l'attention et qui provoque la colère. À la quasi-unanimité, la presse israélienne condamne la décision de l'Union européenne et le plus souvent des termes très durs, suivant cela le ton donné par le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Les Européens sont déconnectés de la réalité, estime une éditorialiste de Yediot Aharonot. Deux poids, deux mesures contre Israël, écrit un autre commentateur. Pour Mariv, depuis des années, Israël n'en fait qu'à sa tête. Elle en paie maintenant le prix. Et puis aussi ce titre dans Israël Hayom, le journal proche du Likoud, le parti de Netanyahou, « La honte de l'Europe ». À nouveau écrit l'éditorialiste du quotidien, « Les Européens nous marquent », allusion au port de l'étoile jaune pendant l'occupation. Le terme d'antisémitisme revient souvent et dans son éditorial, le quotidien libéral Haaretz, lui, rejette ces analogies. Il souligne que le gouvernement n'admet pas la mise en garde en provenance de pays amis d'Israël. Au lieu de s'occuper de l'essentiel, Netanyahou livre des combats sans arriver à convaincre quiconque au sein de la communauté internationale.
Alexandre Bouchanti, le crash de l'avion russe dans le Sinaï continue d'alimenter de nombreux éditoriaux.
Oui, et de nombreux journalistes arabes sont d'accord avec leurs confrères égyptiens qui dénoncent un complot occidental contre le Caire. Plusieurs journaux accusent Londres et Washington de chercher à nuire au régime du président égyptien Sissi qui a évincé le frère musulman Mohamed Morsi en multipliant les déclarations selon lesquelles l'avion russe a été abattu par une bombe placée par la branche égyptienne du groupe État islamique. Alors, des informations que l'enquête n'a pas corroborées puisque, selon la presse égyptienne, aucune trace d'explosif n'a pour le moment été trouvée sur les débris de l'avion. Les retombées catastrophiques pour le tourisme, avec le départ massif des touristes anglais et russes de la station balnéaire de Sharm el-Cheikh, fait aussi l'objet de nombreux reportages.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Bien, c'est la photo de Miri Regev, la ministre israélienne de la Culture, qui fait à nouveau parler d'elle. Cette fois, elle a traité le procureur général israélien d'ordure.
Merci Michel, merci Alexandre. Merci également à François Porcheron qui a réalisé cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, dans quelques secondes, un nouveau journal sur RFI.